le régime sioniste sera définitivement éradiqué de la terre, a souligné le leader de la révolution islamique. Près de 400 Palestiniens ont été tués au cours des dernières 48 heures. Et les derniers soldats français quittent le Niger. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le monde d'aujourd'hui ne fait aucune distinction entre Israël, les États-Unis et la Grande-Bretagne, a souligné le leader de la révolution islamique ce samedi 23 décembre, faisant allusion au silence de marbre observé depuis plus de 77 jours par l'Occident et les États-Unis, les mêmes qui s'opposent avec cynisme en défenseurs des droits de l'homme devant les crimes horribles commis par le régime infanticide israélien dans la bande assiégée de Gaza. L'honorable Ayatollah Ali Khamenei a reçu en audience à Téhéran un groupe d'habitants des provinces de Kerman et du Khuzestan, dans le sud de l'Iran, à l'approche de l'anniversaire de la mort à martyr du général de corps d'armée Rassem Soleimani, ex-commandant de la force ROTS liée au corps des gardiens de la révolution islamique. Le leader de la révolution islamique s'est attardé sur les évolutions à Gaza, soulignant que le front du bien remporterait sans aucun doute la victoire et que le régime usurpateur sioniste serait définitivement éradiqué. Les États-Unis ont apposé éhontément son veto à la résolution. Les États-Unis ont apposé éhontément leur veto à la résolution du Conseil de sécurité en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a rappelé l'Ayatollah Khamenei, ajoutant que cela a démasqué le vrai visage de l'Occident. Nonobstant, la grande victoire du peuple palestinien réside dans le fait qu'il a réussi à discréditer l'Occident avec à sa tête les États-Unis, en raison de ses fausses allégations en matière des droits de l'homme. Les habitants de Gaza, les combattants de Gaza se tiennent comme un rocher, comme une montagne. C'est une chose importante. Sans eau, sans nourriture, sans médicaments ni carburant, ils ont tenu bon et n'ont pas abandonné. Israël, avec tout l'équipement et toutes ses installations, reste impuissant face aux combattants palestiniens. L'échec du régime sioniste est aussi l'échec des États-Unis. Et aujourd'hui, personne au monde ne fait de distinction entre le régime sioniste, les États-Unis et l'Angleterre, a souligné l'honorable Ayatollah Ali Khamenei. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que la République islamique d'Iran ne fera jamais de compromis sur sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. Le ministre iranien a fait cette remarque vendredi 22 décembre lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe Sergei Lavrov. C'était en réaction à une déclaration conjointe publiée par plusieurs pays arabes et la Russie sur les trois îles iraniennes du golfe Persique, Abu Moussa, la Grande Tombe et la Petite Tombe, rappelant la déclaration finale de la 6e édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe publiée jeudi, le ministre iranien a réitéré une nouvelle fois que les îles du golfe Persique constituent une partie indissociable de l'intégrité territoriale iranienne. Il a déclaré que Téhéran et Moscou entretiennent des relations en expansion et que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États fait partie des principes fondamentaux des relations entre les pays. Les trois îles du golfe Persique, Abu Moussa, la Grande et la Petite Tombe, font historiquement partie de l'Iran, comme en témoignent d'innombrables documents historiques, juridiques et géographiques en Iran et dans d'autres parties du monde. Mais les États-Unis ont revendiqué ces îles à plusieurs reprises. Israël continue de commettre des massacres dans la bande de Gaza pour le 78e jour consécutif. Les unités d'artillerie et les avions de guerre israéliens continuent de bombarder divers quartiers de la bande assiégée. Les autorités palestiniennes font état d'intenses bombardements contre plusieurs villes de la bande de Gaza quelques heures après que les puissances mondiales ont exigé que davantage d'aide soit autorisée dans le territoire palestinien assiégé. Le ministère palestinien a déclaré que 18 personnes ont été tuées lors d'une frappe contre une maison du camp de réfugiés de Nusayrat dans le centre de Gaza. D'autres cibles ont été également touchées dans la bande de Gaza. Plus de 400 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens en 48 dernières heures. Le Hamas juge insuffisante la nouvelle résolution des Nations Unies, ratifiée vendredi soir, 22 décembre, sur l'augmentation de l'aide à la bande de Gaza. Le mouvement de résistance palestinien, Hamas, a souligné L'approbation de la récente résolution ne satisfait pas effectivement les besoins et les exigences de la situation catastrophique prévalant dans la bande de Gaza. En raison de la pression de l'administration américaine, la résolution a perdu sa nature originale et le texte a été présenté de manière à permettre aux occupants de continuer à tuer et à détruire, a estimé le Hamas. Le Conseil de sécurité devrait contraindre le régime d'occupation israélienne à fournir une aide suffisante à toute l'enclave assiégée, en particulier pour les régions septentrionales. À la suite des pressions internationales exercées sur les États-Unis pour qu'ils contraignent l'armée du régime sioniste à cesser les bombardements contre la bande de Gaza, le Conseil de sécurité des Nations Unies a finalement entériné une résolution appelant à davantage d'aide humanitaire à destination de l'enclave palestinienne. Les habitants de différentes régions du Yémen ont manifesté leur solidarité avec la nation palestinienne et ont crié qu'ils n'avaient pas peur de la coalition américaine. Les participants à la manifestation qui s'est tenue après la prière du vendredi et avec le slogan « La coalition des défenseurs des navires israéliens ne nous fait pas peur » ont souligné la nécessité de continuer à soutenir la nation palestinienne jusqu'à ce que les crimes du régime sioniste cessent. La manifestation a eu lieu à Sanaa, Taïz et Ma'arib avec une large participation populaire. Le camp de réfugiés palestiniens à Spina, au sud de Damas, a également été la scène de manifestations massives en solidarité avec la population de Gaza. En Jordanie, des centaines de personnes se sont dirigées vers l'ambassade américaine depuis la mosquée Abd al-Rahman après la prière du vendredi. Les manifestants ont condamné les crimes israéliens et le soutien américain à ces crimes ont exigé l'action de la communauté internationale pour mettre fin à ces crimes. Dans la capitale libanaise, un certain nombre de citoyens ont exprimé leur solidarité avec la population de Gaza et de la Cisjordanie en se rassemblant devant la mosquée Khalid ibn al-Walid à Beyrouth. Les derniers des 1500 soldats et aviateurs français basés au Niger ont quitté le pays vendredi 22 décembre au terme d'un long bras de fer entre Paris et les autorités militaires de Niamey. Présente dans la région depuis 2013, la France avait déployé jusqu'à 5500 hommes dans le cadre de l'opération soi-disant antiterroriste Barkhane. Les derniers militaires français déployés au Niger ont quitté le pays vendredi 22 décembre dans la matinée, a annoncé l'armée nigérienne lors d'une cérémonie à Niamey marquant la fin de leur présence. Aujourd'hui marque la fin du processus de désengagement des forces françaises au Sahel, a déclaré un lieutenant de l'armée nigérienne, Salim Ibrahim. La cérémonie a eu lieu dans la base aérienne de Niamey, abritant une base aérienne projetée, BAP, où est stationnée une partie des 1500 soldats et aviateurs français présents au Niger. Les derniers militaires français ont décollé à bord de deux avions, a constaté un journaliste de l'AFP. Leur destination n'a pas été précisée. La cérémonie s'est achevée par la signature d'un document commun par le chef d'état-major de l'armée nigérienne, le colonel Maman Sani Kaou, et le commandant des forces françaises au Sahel, le général Eric Ozan, a affirmé le lieutenant Salim Ibrahim. La BAP a été rétrocédée au Niger. Le retrait des troupes françaises commençait début octobre, met fin à 10 ans de présence française au Sahel. Alors que les États-Unis et leurs alliés envisagent des actifs russes pour aider l'Ukraine, Moscou avertit Washington de la rupture des relations diplomatiques. La Russie affirme qu'elle pourrait décider de rompre complètement ses relations diplomatiques avec les États-Unis si Washington confisquait les milliards de dollars d'actifs étrangers russes détenus dans les institutions financières américaines pour aider l'Ukraine dans la guerre. Les hommes politiques de Washington ne devraient pas vivre dans l'illusion que la Russie est fortement dépendante des relations diplomatiques avec ce pays, a rapporté vendredi l'agence de presse Interfax, citant les propos du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. Celui-ci a déclaré que Moscou ne serait pas celui qui initierait une rupture complète des relations diplomatiques avec les États-Unis, mais que cela pourrait survenir pour un certain nombre de raisons, notamment la confiscation d'actifs, nouvelle escalade militaire et bien d'autres. Le diplomate russe a déclaré que Moscou était prêt à tout scénario. Les médias américains ont rapporté que Washington et ses alliés avaient conçu des plans pour prendre possession des actifs russes afin de continuer à financer la guerre en Ukraine. L'administration américaine Joe Biden a l'intention de prendre possession des avoirs russes gelés d'une valeur de plus de 300 milliards de dollars. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Pourquoi la France s'impliquerait-elle dans les tensions en mer Rouge? La guerre entre Israël et la résistance palestinienne fait des vagues en mer Rouge. C'est une guerre parallèle qui fait moins de victimes et soulève moins de passions que celle qui se déroule dans la bande de Gaza. Elle est pourtant dangereuse et comporte un risque d'escalade. C'est la confrontation qui se déroule dans les eaux internationales de la mer Rouge, une voie maritime stratégique. La France se retrouve au cœur d'un incident inhabituel, alors qu'une frégate française patrouillant en mer Rouge aurait abattu dans la nuit du 9 au 10 décembre deux drones provenant du nord du Yémen, sous contrôle des forces du mouvement yéménite Ansarallah. Ce qui rend cet incident encore plus inhabituel, c'est la réaction de la marine française. Pour la première fois, elle a utilisé un tir de missile solaire en autodéfense, Aster 15, pour abattre les drones qui se dirigeaient directement vers la frégate. Au Sénat, lors de l'examen des crédits de la mission Défense pour 2024, le 11 décembre, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a confirmé que la frégate avait bien été la cible d'une attaque lancée depuis le Yémen avec deux drones qu'elle a abattus grâce à ses missiles surface-air Aster 15, tirés en légitime défense. Ce qui est intéressant à propos du navire de guerre Languedoc en particulier, c'est qu'il a accosté à Haïfa en mars 2019, lors d'une visite de routine de la marine française en Israël et en Méditerranée orientale. L'Alsace, autre frégate de la même classe spécialisée dans la défense aérienne, est également venue à Haïfa en février 2023. La France considère son rôle comme essentiel pour la sécurité en Méditerranée orientale. L'incident survenu en mer Rouge le samedi 9 décembre fait suite à l'annonce par les forces armées yéménites de cibler tous les navires commerciaux à destination d'Israël. Il n'était pas clair si cette attaque de drones était liée à cette menace. Le navire de guerre français naviguait à environ 110 km des côtes du Yémen lorsque l'incident a eu lieu. À mesure que les menaces des forces armées yéménites augmentent en mer Rouge, les puissances occidentales, en l'occurrence la France, tentent à jouer un rôle de plus en plus important. Les États-Unis ont joué jusqu'à présent un rôle important et central en abattant des drones et des missiles en soutien au régime sioniste. Les menaces yéménites de cibler tous les navires semblent être une tentative de blocus contre Israël. L'incident en mer Rouge met en évidence la complexité de la géopolitique et la vulnérabilité des voies maritimes internationales. La France se retrouve ainsi au premier plan de ces enjeux et appelle à la retenue et à la désescalade. Mais la situation en mer Rouge reste tendue. L'évolution de cette crise complexe aura un impact sur la stabilité régionale et internationale. L'avenir de la navigation en mer Rouge dépendra en grande partie des décisions prises par toutes les parties impliquées dans ce conflit en constante évolution.